I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Prenons 1000 euros d'impôts que vous payez. Là-dessus, seuls 41 sont versés aux enseignants. 61 vont aux hôpitaux, mais moins de la moitié de cette somme, seulement 25 euros, sert à payer les soignants. Ça paraît peu. En revanche, sur ces 1000 euros, 262 sont engloutis par les retraites. Ça vous paraît beaucoup. Bon, ok, c'est pas vraiment moi qui ai fait les additions, mais tous ces chiffres sont vrais. Ils ont été calculés par l'un des économistes les plus affûtés en matière de finances publiques, François Eckal, à la demande de l'Express. Je n'en ai cité que quelques-uns, mais tous les résultats de son travail montrent la même chose. La répartition de l'argent public est aujourd'hui très déséquilibrée et contribue au sentiment qu'il est mal dépensé. Il y a donc un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution ne passe pas forcément par une hausse des impôts, car les marges de manœuvre existent pour mieux dépenser cet argent. Et on a décidé de leur consacrer un épisode. Bienvenue dans une France parallèle. Une France où votre déclaration d'impôt ne change pas, mais votre quotidien, si, parce que la dépense publique est gérée de manière plus juste et efficace. Oui, vous allez voir, c'est possible. On va donc parler d'impôts pendant 20 minutes, mais je peux vous garantir que vous n'allez pas les voir passer. Oui, ça aussi, c'est possible, parce que je suis bien accompagné. Salut Béatrice.
Bonjour.
Béatrice Mathieu, chef du service économie de l'Express. Ensemble, on va donc imaginer une France qui dépense mieux son argent. Mais ça ne veut pas dire que tout est acheté dans le modèle actuel.
Non, pas du tout, parce que le modèle social français, c'est quand même un modèle de redistribution. Et cette redistribution, en fait, des plus riches vers les plus pauvres, eh ben, elle marche. Même si on dit rien ne va, etc., que les inégalités ont beaucoup progressé, que la pauvreté aussi a quand même progressé, la redistribution, ça marche. Il y a quelques chiffres qui le montrent. Quand on regarde, en fait, le niveau de vie des 20% les plus pauvres en France, eh bien, après redistribution, c'est tous les mécanismes de soutien, d'aide au logement, qui existent, après redistribution, ce niveau de vie est multiplié par 1,5. Ce qui est très important, il y a très très peu de pays, sauf les pays scandinaves, qui ont un système de redistribution aussi généreux. Quand on regarde aussi l'écart de revenus entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches, l'écart est de 8. Ça aussi, c'est un écart qui est relativement faible parmi les pays riches.
Bon, il est temps de se plonger dans notre France parallèle. On a dit que les impôts y restaient les mêmes, donc quel est notre budget, Béatrice ?
On dépense grosso modo chaque année aux environs de 1 400 milliards d'euros. On a dépensé plus en 2021, mais il y avait la Covid. C'est grosso modo chaque année environ 55% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses qui sont créées par la France. Et ça, ce 55%, c'est un des plus hauts niveaux d'Europe, même du monde, au coude à coude avec le Danemark. Alors le corollaire de ça, c'est que pour financer toute cette dépense publique, il nous faut beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes. Et on a un taux de pression fiscale qui est là aussi un des plus hauts niveaux d'Europe.
Alors, pour aider nos auditeurs à se projeter, je te propose, Béatrice, de prendre l'exemple d'une famille dans ce pays à la politique fiscale différente. Alors, cette famille, elle vit dans une ville qui t'est chère, Béatrice. On a pris Limoges. Et dans la famille La Loupe, on l'appelle comme ça, on commence par les enfants. Il y a un fils qui rentre à l'école primaire et dans sa classe, il y a moins d'élèves, plus d'accompagnement et plus de matériel.
Oui, parce que dans notre France parallèle, on a mis le paquet sur le primaire et pas sur le secondaire. Et il faut voir qu'aujourd'hui, le grand problème de l'éducation, il y a des enquêtes par milliers qui ont été faites, notamment cette fameuse enquête PISA de l'OCDE, qui montre que les résultats en fait, des enfants à l'école en France sont assez mauvais. Et surtout que la France est un pays qui reproduit le plus les inégalités à l'école. C'est là où le poids de la classe sociale est le plus important. Et donc, on sait que ben, il faut mettre l'accent sur le primaire. Et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, dans notre monde parallèle, on investit plus dans la maternelle, dans l'élémentaire, et moins dans le secondaire. Et ça va faire la différence, sans doute, dans les résultats.
C'est-à-dire qu'on prend le même budget pour l'éducation nationale, mais on en met moins au collège, dans le secondaire, on en met plus pour les petites classes.
Voilà, parce que les dépenses aujourd'hui d'éducation, c'est aux environs de 5,3% du PIB en France. Donc, c'est pas mal, parce que quand on regarde à l'ensemble, par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, hein, c'est le club des pays riches, ils sont à 4,8%. Donc, c'est pas parce qu'on dépense pas assez, on dépense pas bien et pas où il faut. Et notamment, effectivement, dans les niveaux maternels élémentaires, et on dépense 9% de moins que nos voisins dans le primaire, et on surinvestit en revanche le collège et le lycée.
Donc, à budget constant, voilà un premier exemple des fameuses marges de manœuvre dont on parlait. On continue. Dans la famille Laloupe, je demande. La fille, elle est plus âgée, elle cherche du travail et elle apprend son futur métier directement auprès d'une entreprise, Béatrice.
Et oui, c'est ces fameuses écoles de production. Certaines commencent à voir le jour un petit peu partout en France. C'est des écoles de production qui sont faites directement par les entreprises. Et pourquoi elles font ça? Parce que le système de formation, et notamment de formation professionnelle en France, coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'intervenants dans ce système. C'est quelque chose de très opaque et qui marche pas très bien. Et qui aujourd'hui, compte tenu des pénuries de personnel qualifié, pousse les entreprises à créer elles-mêmes leurs propres écoles à l'intérieur de leurs usines ou de leurs entrepôts ou de leurs bureaux.
Qu'est-ce qu'on a fait dans notre France parallèle avec le budget de la formation professionnelle pour que ça marche mieux?
Dans la France parallèle, on a fait en sorte que le budget de la formation professionnelle aille vraiment à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont exclus du marché du travail, c'est-à-dire les chômeurs. Aujourd'hui, on a une formation professionnelle qui bénéficie surtout aux cadres, surtout à ceux qui sont en emploi et non pas ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Donc là aussi, il ne faut pas réduire les sommes, il faut les réorienter.
En attendant d'avoir fini sa formation, la fille de la famille Laloupe vit toujours dans le pavillon de ses parents, avec bien sûr son petit frère. Pour financer ce logement, la famille dépense moins d'un quart de ses revenus. Et ça, Béatrice, c'est une vraie différence avec la France actuelle.
Et oui, parce que la France actuelle, elle dépense beaucoup pour son logement. Les Français consacrent près de 26,2% en moyenne de leurs revenus au logement, contre 23,5% dans l'ensemble de l'Union européenne. On sait que pour les ménages les plus pauvres, cette part est bien, bien plus importante. On sait aussi qu'il y a près aujourd'hui de 2,2 millions de Français qui attendent un logement social et c'est 400 000 de plus qu'il y a quelques années.
Mais quel est le rapport avec la fiscalité?
C'est un rapport avec la politique du logement. Alors, la politique du logement, si vous voulez guérir de vos insomnies, vous vous plongez dans la politique du logement et ça va vous endormir parce que c'est quelque chose qui est touffu, une superposition de strates, de crédits d'impôt, de subventions, de prêts à taux zéro, etc. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué et qui coûte beaucoup d'argent aux finances de l'État. C'est un peu plus de 37 milliards d'euros chaque année. C'est 1,6% du PIB contre 0,5% en moyenne pour un résultat, on l'a dit, qui est quand même pas fabuleux.
Oui, alors que dans la France parallèle, notre famille Laloupe, elle paye moins cher son logement. Comment on a fait?
On a fait en simplifiant cette politique du logement et en enlevant certaines strates. Alors aujourd'hui, au cœur de la politique du logement, il y a un outil qui coûte très cher à l'État. Ce sont tous les outils de défiscalisation. C'est en clair des produits de placement qui sont proposés aux Français, qui incitent à la construction neuve, mais en même temps qui permettent de déduire les investissements dans cette construction neuve des impôts. C'est les Deurobiens, les Celliers, les Pinel. Ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Et le problème, c'est que ça alimente la hausse des prix.
Comment ça se fait?
Parce que, comme on sait que ceux qui achètent ces logements-là pour les louer, en fait, vont bénéficier de baisses d'impôts, les promoteurs se disent, ces baisses d'impôts, je peux le remettre en plus sur le prix de vente. Donc au final, c'est un cercle vicieux qui alimente la hausse des prix. Il y a plein d'études, et notamment d'études de la Cour des comptes, qui ont montré que c'était des outils qui avaient plutôt des effets pervers. Là, on le voit aussi sur la hausse des prix et qui n'avait pas vraiment d'effet sur la construction neuve. Donc on pourrait économiser cet argent en mettant beaucoup plus d'argent public sur des dispositifs qui existent aujourd'hui et qui sont assez efficaces, comme par exemple le prêt locatif social qui permet de développer le logement dit intermédiaire. Et c'est d'ailleurs dans ce logement-là que vit notre famille à Limoges.
Et ça montre que dans notre France parallèle, on a évalué l'efficacité des différents dispositifs et évacué ceux qui créent un cercle vicieux.
Voilà, dans la France parallèle, on se fixe un objectif par politique publique et puis tous les ans ou tous les 5 ans, on évalue cet objectif par rapport au coût que ça représente pour les finances publiques, ce qui permet de recalibrer finalement presque de façon dynamique tous les instruments de politique publique.
Dernier exemple de la manière dont la fiscalité peut réduire les inégalités, Béatrice, alors exemple qui peut paraître anecdotique, mais il n'est pas tant que ça. À Limoges, la famille Laloupe paye la redevance télé, mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui dans la France actuelle.
Oui, notre famille à Limoges, elle paye une redevance télé parce que la redevance télé s'applique à tout le monde, que vous ayez un poste de télévision ou pas. C'est la grande différence avec la situation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, un cadre qui a une tablette, 3 smartphones, un ordinateur, peut regarder ses programmes sur Amazon, Netflix ou même en replay, sur France Télévisions en replay, alors il ne payera rien, alors qu'une famille, parce qu'il n'a pas de téléviseur, alors qu'une famille peut-être plus modeste, qui aura un poste de télévision et pas d'ordinateur, elle va la payer.
Les inégalités sont donc traquées jusqu'à la redevance télé. La politique fiscale de notre France parallèle ne laisse rien au hasard. Et vous allez l'entendre, elle est aussi beaucoup plus efficace.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous me voyez venir, après les enfants de la famille Laloupe, voici les parents. On commence par la mère, elle a monté une start-up dans l'agroalimentaire il y a 2 ans, ça commence à bien marcher. Et ça, Béatrice, c'est en grande partie grâce au Crédit Impôt Recherche.
Oui, le CIR pour Crédit d'impôt recherche, un CIR recalibré pour les start-up et les PME, et elle en bénéficie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ce CIR, c'est la plus grosse niche fiscale française. Ça coûte environ aux finances de l'État quasiment 6 milliards d'euros par an. Pour un résultat, finalement, quand on regarde les dépôts de brevets rapportés au nombre d'habitants, on est à la 10e position au niveau européen, alors même que ce CIR, c'est le dispositif le plus généreux en Europe, qui est censé stimuler l'innovation. Donc on voit bien que là encore, si on faisait une vraie évaluation des politiques publiques, on se rendrait compte que ça coûte beaucoup d'argent et que ça va en majorité aux grands groupes, des grands groupes français, mais aussi étrangers, comme Amazon, Google ou Huawei. Et on peut se demander, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du CIR français et donc de l'argent public français pour stimuler la recherche et développement dans leur entreprise? Donc la question, ce n'est pas de dépenser moins, encore une fois, sur l'innovation, mais c'est de dépenser beaucoup mieux.
Et donc, la répartition de la dépense publique est plus efficace. Où va l'argent qu'on économise comme ça, Béatrice?
On peut par exemple investir l'argent économisé dans la recherche publique. Là, c'est une grande faiblesse de la France par rapport à nos voisins européens, où on a une part de la recherche publique rapportée au PIB qui est très inférieure à celle de l'Allemagne, de la Suisse, des pays nordiques et a fortiori de pays asiatiques comme le Japon ou la Corée.
Donc, dans notre France parallèle, on dépense plus dans la recherche publique. Il nous manque un membre de la famille Laloupe, Béatrice, c'est le beau-père. Alors lui, il travaille à l'Office du tourisme de Limoges. Quel rapport avec la fiscalité?
Il n'est pas fonctionnaire, contrairement au fonctionnement actuel. Dans la France parallèle, on augmente les délégations de services publics. Aujourd'hui, l'État veut s'occuper de tout. C'est l'État nounou qui veut régenter tous les pans de l'activité. Or, dans notre France parallèle, on a fait un choix entre ce qui relève des missions de l'État et des missions de service public et ce qui relève des missions d'intérêt général. Et là, c'est pas forcément des fonctionnaires, c'est pas forcément l'État qui s'en occupe directement, mais peut déléguer à des entreprises privées cette mission d'intérêt général. C'est le cas des comités du tourisme.
Limoges, bénédictin.
Petite parenthèse, tu as un conseil de visite touristique à Limoges, Béatrice ?
La rue de la Boucherie, magnifique, petite rue moyenâgeuse avec une petite chapelle sublime.
Merci pour le conseil, Béatrice. Cette France parallèle, on a dit qu'elle avait exactement les mêmes caractéristiques que la France actuelle, à part sa politique fiscale, vous l'avez compris. Donc désolé, mais ici aussi, il y a une pandémie de Covid-19 et toute la famille Laloupe utilise une application gouvernementale de traçage des cas contacts qui cartonne, et c'est une idée du secrétaire d'État à la transition numérique, un certain Guillaume Rosier.
Oui, un certain Guillaume Rosier. Alors, dans la vraie France, pas celle parallèle, hein, ces applis Covid Tracker ou Vitmados ont écrasé Stop Covid. On ne va pas refaire la polémique sur Stop Covid qui marchait quand même moyennement bien. Et ben ça, c'est l'illustration de l'échec de l'exécutif qui est pourtant réputé comme technophile et puis surtout de l'échec d'une administration publique à développer des outils numériques efficaces.
Et là, Béatrice, il ne s'agit pas de mieux répartir la dépense publique, mais de la rendre plus efficace.
Oui, il faut améliorer la culture numérique des agents de l'État qui sont formés un peu à l'ancienne, à la façon des grands projets avec les infrastructures, l'informatique qui est datée. Donc, il faut moins de lourdeur administrative dans la conduite des projets, plus de processus itératifs et collaboratifs. Et il faut mettre un esprit, un vrai esprit Startup Nation dans l'administration publique.
Et ça, encore une fois, à dépenses constantes, ça permettra de faire des économies.
Oui, ça permet de faire des économies. Il y a un exemple réussi de réforme dans la vraie France, de numérisation et de la digitalisation de l'économie, c'est le prélèvement à la source, par exemple. Eh bien, ça permet de récupérer plus vite l'argent pour l'État et de mieux gérer ses recettes fiscales. Ça permet aussi d'avoir moins d'agents à la Direction générale des finances publiques et ça aussi, c'est une source d'économie.
Pour terminer, Béatrice, une dernière question. Est-ce que cette France parallèle est juste une utopie qu'on a inventée, ou bien est-ce qu'on a des chances de voir les évolutions qu'on a décrites dans ce podcast arriver bientôt dans notre France actuelle ?
Il faut dire que ça fait près de 30 ans qu'on réfléchit non pas au niveau de la dépense publique, mais à l'efficacité de la dépense publique. Alors, il y a eu des tentatives sous Sarkozy, c'était la fameuse RGPP pour Révision Générale des Politiques Publiques. Après, François Hollande a repris le flambeau avec la MAP, c'était la modernisation de l'action publique. Alors ça, c'est des acronymes fumeux qui ont été écrasés par la lourdeur de l'administration et puis des habitudes. Il faut voir que maintenant, il faut réfléchir à un État qui raisonne différemment, qui se fixe des objectifs dans la durée, qui dépassent en fait les alternances politiques, et puis des objectifs que régulièrement, eh bien, on regarde si on les a réalisés et on regarde en face les sommes qui ont été dépensées pour réaliser ces objectifs.
Bon, on suivra à la loupe les propositions des candidats à l'élection présidentielle en la matière. Merci beaucoup, Béatrice.
Merci.
Béatrice Mathieu, chef du service économie de L'Express. Le dossier que tu co-signes sur les dépenses publiques est à retrouver en une de L'Express en kiosque cette semaine et évidemment sur l'express.fr. Vous y lirez notamment le détail de l'étude que je citais en début d'épisode avec une infographie très parlante sur la répartition précise de ces 1000 euros d'impôts. Si vous aussi voulez faire partie de la famille Laloupe et ne rater aucun épisode, eh bien abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Castbox par exemple. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous écrire à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Alice Ninin et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.